On accueille Julie maintenant au 39-21. Vous êtes nombreuses et nombreux à réagir au témoignage de Marie qui vient de nous quitter. Merci pour vos messages et merci pour votre fidélité. On a, comme vous l'avez compris, quelqu'un qui semble très bien s'y connaître puisqu'elle a été dans le même cas, Micheline, qui va échanger avec Marie et qui va la conseiller. Donc Anita, Christine, Mamie Tam Tam, Daniel, Marie du Finistère, Marie, Micheline, vous êtes très très nombreux, Charles bien évidemment, Isabelle, Valérie, Sophie, Thierry, Nanou, vous êtes beaucoup à avoir réagi sur ce témoignage qui nous concerne tous puisque nous passerons à un moment par cette période de notre vie où nous serons confrontés à la fin de vie et l'EHPAD, la maison avec des enfants ou pas qui s'occupent de nous, on verra. Mais c'est très préoccupant, d'où votre réaction. Bonjour Julie, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
C'est vrai que c'est très très touchant comme témoignage de la part de Marie et je compatis totalement. D'autant plus que j'ai une maman qui est assez âgée aussi et nous on a la chance de l'avoir encore à la maison. S'entendre assez bien pour la garder à la maison le plus possible.
Et c'est une chance, vous avez raison.
C'est une
vraie
chance.
Oui.
Moi, je vous appelle parce que je suis dans un désarroi total. Je suis maman de 5 enfants adoptés.
Oui.
Et le 5e, le dernier de mes enfants. Quand on l'a adopté, il avait 3 mois et demi. Et il y avait suspicion de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale.
Oui.
On réduit par l'acronyme SAF. Des tests ont été faits, il a été réanimé à la naissance, il a été mis sous sevrage puisque sa mère biologique buvait et se droguait pendant la grossesse.
D'accord.
Donc Nicodème a hérité de ce qu'on appelle le TCAF, c'est-à-dire les troubles causés par l'alcoolisation fœtale.
D'accord.
Il n'avait pas de déformation physique. Ce qui fait que nous, quand on l'a adopté, son père est pharmacien, moi je suis préparatrice en pharmacie, donc forcément sensibilisée aux problèmes médicaux. Et bon, il n'avait pas l'air d'aller mal, ça se passait plutôt bien, sauf que bon, au fur et à mesure de sa scolarité, entre-temps j'ai divorcé, donc j'ai eu très peur que les enfants pâtissent de cette situation, et ce qui fait que Nicodème en particulier a atterri dans un CMPP. J'ai signalé à l'époque au médecin responsable du CMPP en Ille-et-Vilaine que Nicodème avait ce problème de in utero, justement, qu'il avait écopé de toute sa... l'alcool, la drogue de sa mère biologique.
Oui.
Personne n'a eu l'air de m'entendre. Et les choses se sont considérablement aggravées au fil de sa scolarité.
Oui.
Il était pas dans les clous. Il a redoublé son CP parce qu'il n'arrivait pas à suivre. Il a fini par arriver péniblement jusqu'en CM2, et alors son arrivée en 6e...
Oula, je vous entends plus très bien, parlez bien dans le téléphone, s'il vous plaît.
Oui, son arrivée en 6e, vous m'entendez là ?
Oui, très bien.
A été carrément une explosion, il a commencé à fuguer, moi je vis seule avec mes enfants, donc la nuit je dors, et c'est tout à fait par hasard que je me suis aperçue que Nicodème se sauvait pendant la nuit.
Oui, et qu'est-ce qu'il allait faire pendant la nuit, des bêtises ?
Ah ben, des bêtises. Et puis rencontrer des gens, il y avait... Il est très attiré, c'est inné chez lui, il est très attiré par les personnes qui ont une très mauvaise influence sur lui, milieu de la drogue, Donc j'ai quitté l'Ille-et-Vilaine parce que j'ai demandé à ce qu'il soit inscrit aux apprentis d'Auteuil, en Loire-Atlantique. Il a été accepté, il a été pris, et très vite, les apprentis d'Auteuil se sont aperçus que ça les dépassait. C'était pas du tout dans leur corde. Ils m'ont suggéré de faire un dossier MDPH, que a priori, Nicodème avait un problème quand même assez profond. Entre-temps, moi, je n'ai pas décroché d'Internet. J'ai fait des recherches approfondies pour voir quelles pouvaient être les causes de ces symptômes que je constatais depuis qu'il était tout petit. Oui. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et en me rapprochant de l'association, j'ai eu la chance d'avoir des personnes comme interlocutrices qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Et du coup, j'ai pu aller voir un médecin, convaincre Nicodème de me suivre, parce que bien sûr, dégoûté par les psys et tout ça qu'il voyait, il ne croyait plus à la possibilité qu'on puisse l'aider. De toute façon, pour lui, il n'a pas de problème, il est juste énervé. Il faut savoir que le trouble de l'alcoolisation fœtale, c'est un ensemble de troubles qui peuvent survenir chez une personne qui a été exposée à l'alcool pendant sa vie intra-utérine. On a 800 porteurs du SAF qui naîtraient actuellement chaque année en France et 8000 enfants porteurs de TCAF qui naîtraient chaque année en France. Les personnes qui sont atteintes par ce syndrome ont subi des lésions qui peuvent induire des handicaps physiques et bien sûr mentaux. Et en particulier, déficit intellectuel, mauvaise mémorisation, difficulté d'attention, mauvaise maîtrise du temps et de l'argent, capacité sociale complètement amoindrie, incapacité à gérer les situations de stress, difficulté d'apprentissage, crédulité. Elles sont bien souvent victimes justement de gens malveillants parce qu'elles sont tellement crédules que, oui. Voilà, entraînées. Moi, ça fait des années que je me bats pour mon fils. Des années. Et je suis... excusez-moi.
Je vous en prie.
Je n'en peux plus. Le week-end dernier, alors que depuis 2 ans, il était parti de chez moi, il est revenu complètement ivre à la maison. Moi, je l'ai fait rentrer, bien sûr, c'est mon enfant. Et très vite, je l'ai entendu qu'il s'énervait tout seul au téléphone. De là, il est parti dans la salle de bain, il s'est lacéré le bras gauche avec un couteau. Il est sorti de la salle de bain, le bras en sang, et se tenant le couteau sous la gorge en me disant « Maman, je vais me suicider, je me suicide ». Son frère et moi, on a essayé d'intervenir. Il nous menaçait de nous planter, comme il disait. Je suis terrorisée. Il a fini par passer à travers la porte-fenêtre qui donne sur ma terrasse.
Oui.
Heureusement, j'ai une de mes voisines de l'immeuble qui a entendu. Il était 2h du matin. Elle a entendu le bruit. Elle s'est mise à sa fenêtre en me disant ce qui se passait. Je lui ai dit « Écoute, appelle la police tout de suite, tout de suite, tout de suite ». On a essayé de mettre Nicodème dehors pour qu'il aille se calmer, mais il n'y avait pas moyen. Et l'idée, ça a été de rentrer nous pour se mettre en sécurité dans la maison pour stopper ce système qui montait, cette rage incompréhensible. Et là, il a défoncé carrément la porte-fenêtre et il est passé à travers. Alors là, il s'est ouvert le cou de l'autre côté. En allant jusqu'à l'os. Et quand il a vu que j'appelais la police, moi, de mon côté, alors que j'étais terrorisée, que je n'avais même plus le numéro pour appeler qui que ce soit, il s'est sauvé. Mais la police est arrivée 1 heure après. Malheureusement, ils ont constaté qu'il y avait du sang partout dans la maison, sur les portes, sur les fenêtres, sur la fenêtre explosée, enfin. Mais ça, c'est le résultat d'années et d'années de combats où j'appelle la justice pour m'aider, j'appelle les médecins pour m'aider, j'appelle tout un chacun parce que je me dis, mais enfin, c'est pas possible qu'on ne puisse pas le mettre l'hospitaliser et le traiter. Actuellement, il est drogué, alcoolique. Et il me décrivait il y a 2 jours, puisqu'il est revenu à la maison, il me dit, moi, tu sais, quand je bois de l'alcool, c'est comme si je buvais de l'eau.
Oui.
Je l'ai amené le dimanche au CHU, aux urgences, parce que bien que préparatrice en pharmacie, vu l'étendue des dégâts, là, je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais faire. Comme il est majeur depuis le 12 mars, il est rentré tout seul. Donc j'ai appelé dans l'après-midi pour savoir où en étaient les soins, est-ce qu'il avait été pris en charge. J'ai eu un interne qui m'a dit oui, on est en train de soigner ses blessures et comme on a constaté qu'il s'était scarifié le bras, on va le diriger vers un psychiatre. Et je me suis dit, ça y est, enfin, ça y est, on est sauvés. Et non, le psychiatre a écouté mon fils, d'après ce qu'il m'a dit, hein. Après, c'est les dires de Nicodème. Il a écouté mon fils, il lui a donné des adresses où il pouvait aller voir des psys gratuitement, puisque Nicodème vit dans la rue et n'a pas d'argent. Je suis arrivée difficilement à lui obtenir l'allocation adulte handicapé en me battant. Donc, Nicodème est arrivé à la maison en me disant ben voilà, j'ai des adresses, ben c'est drôlement bien passé avec ce psy. Je lui ai dit hein, que j'étais. J'avais l'alcoolisation fœtale, comme il dit. Enfin, ben, oui, mais Nicodème, faut que tu te fasses soigner. C'est indispensable. Et là, je ne peux plus le recevoir chez moi. Et tous les jours, il revient. Et comme j'habite au rez-de-chaussée, il rentre sur ma terrasse. Je ne sais plus quoi faire. Donc, j'appelle au secours. Là, c'est un appel au secours auprès de tous ceux qui peuvent m'entendre. Je ne comprends pas que la justice ne se soit pas positionnée. J'ai demandé une hospitalisation sous contrainte à la juge des enfants qui s'occupait de lui à l'époque, ça date d'il n'y a pas très longtemps, je crois que la dernière audience était au mois d'octobre. On m'a carrément presque rionné en me disant « Mais Madame Boineau, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas faire hospitaliser quelqu'un comme ça sans preuve. » Il a vu suffisamment de médecins en garde à vue qui n'ont jamais jugé nécessaire de l'orienter vers la psychiatrie.
Oui, c'est ouais, oui.
Voilà. Voilà, et du coup, là, il dit mon enfant, c'est mon enfant, je l'aime. Et c'est terrible, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus affreux pour une maman que de mettre son enfant dans la rue, de lui interdire l'entrée à son domicile. Et personne n'agit, personne ne vient à mon secours. Donc là, oui, j'appelle au secours. Je dis là, il faut qu'on nous aide, c'est pas possible. C'est toute une famille qui est en danger. Mes enfants, mes autres enfants qui ont quitté le domicile sont fous de peur en me disant « Mais maman, il faut que tu t'en ailles, mais je vais pas passer ma vie à fuir. » Et puis de toute façon, la solution, c'est pas de
maman,
fuir. «
Maman, il faut que tu t'en ailles, oui.
Oui.
Vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez
ah
pas.
Ben, je peux pas m'enfuir de toute non. façon. Et puis mon enfant, j'en fais quoi ? Là, il est dans la rue, je ne sais pas comment le... je peux le contacter par SMS, mais lui ne peut pas me téléphoner. Il ne peut pas m'envoyer de SMS. Et je ne sais pas où il est. Et j'ai passé 2 ans comme ça, sans savoir où il était. Là, il était déclaré en fugue. La police a fait vraiment... J'ai eu la chance de tomber sur des personnes exceptionnelles au niveau des commissariats qui ont compris, qui ont eu l'air de comprendre justement la difficulté, puisqu'à chaque fois j'en parle en disant attention, ça ne le dédouane pas hein, par rapport aux faits et aux faits qui lui sont reprochés. Et ce n'est pas du tout le but de le dédouaner. Mais par contre, il faut absolument tenir compte de cette pathologie, parce que là, ça le dépasse complètement. Et il s'enfonce, de jour en jour, il s'enfonce. Donc, on fait quoi ?
Vous n'avez aucun recours par rapport à... Parce qu'il est, il est mineur ? Non, il est majeur.
Non, il est majeur depuis le 12 mars.
Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas la protection de l'enfance qui peut vous aider. Est-ce qu'il a...
Ah ben,
la
protection de l'enfance est intervenue. Mais comme quand il lui donnait rendez-vous, Nicodème ne venait pas, bien entendu qu'il ne venait pas. Il avait décrété que de toute façon, ça ne pouvait pas l'aider. Donc, ils n'ont pas pu mettre en place quoi que ce soit. C'est ce que la juge m'a rétorqué. On ne peut pas aider quelqu'un malgré lui. Mais le problème, ce n'est pas d'aider quelqu'un malgré lui, c'est de soigner quelqu'un qui est en danger. Lui, il est en danger. Notre famille est en danger parce que ça a des conséquences énormes sur toute la famille, y compris sa grand-mère qui est diabétique, qui ne dort plus la nuit, enfin, est folle d'inquiétude de me savoir toute seule à la maison, enfin... Mon autre fils qui est autiste, qui lui est complètement... Ça lui a valu quand même une semaine d'arrêt de travail, l'expérience avec son frère.
Et donc, c'est là où il est majeur, il est en roue
oui.
libre. Est-ce que la seule chose à laquelle je pensais, est-ce qu'il a commis des infractions
oui.
et donc a été suivi par la protection judiciaire de la jeunesse? Et est-ce qu'il a un référent auprès de la protection judiciaire de la jeunesse ?
Oui, qui n'a jamais pu le rencontrer. Il en a eu une qui est...
Qui n'a jamais pu le rencontrer ? Pourquoi ?
Alors, parce qu'il y a eu plusieurs personnes référentes. Il y en a eu une en particulier qui a pu monter le voir à l'époque où il a été envoyé chez son père pour lui éviter la prison, puisqu'on était devant le juge des détentions, et son père s'est proposé de le prendre chez lui, avec l'appui de l'avocate de Nicodème, pour essayer de le sortir de là. Mais, mais ce n'était pas possible de toute façon de le sortir de là. C'est en lui, c'est pas...
Oui, d'accord. Mais
donc, il fallait le soigner.
Oui, mais il y a quand même un cadre. Vous voyez, il y a quand même un cadre que l'éduc de la protection judiciaire de la jeunesse peut mettre en place pour...
Oui, mais on a joué de malchance.
Parce que le jeune est en danger, vous voyez ?
Voilà.
Et donc, comme il a commis des infractions quand il était mineur, cet éduc est le seul aujourd'hui à rester dans le, vous voyez, dans le jeu. Il est encore dans le game, comme ils aiment dire, ces jeunes. Vous voyez ?
C'est vrai.
Ben oui.
Mais oui, tout à fait. Mais on a joué de malchance parce qu'entre-temps, ben, cette dame qui était très bien et très investie a disparu de la circulation. Elle a dû tomber malade. Ça a mis des mois avant que quelqu'un d'autre prenne le relais. Et depuis que l'autre personne est arrivée, il m'a contacté 2 ou 3 fois, je crois. Il n'a jamais pu rencontrer Nicodème. Ben, pour cause, puisque Nicodème est dans la rue, comment voulez-vous que je l'informe qu'il y a un tel rendez-vous, que je peux l'amener? Il ne sait pas où c'est, alors qu'il est très capable de s'orienter. Il s'est mis à dos plusieurs quartiers de Nantes. J'ai appris que le monde de la drogue le cherchait ardemment pour... lui faire payer les méfaits qu'il a pu leur faire vivre. Enfin, mais je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Et personne ne va intervenir, personne ne va faire quoi que ce soit. Le psy qu'il a vu à l'hôpital aurait dû, selon moi, soit me contacter, puisque j'avais laissé mon numéro de téléphone volontairement en disant, mais appelez-moi parce que là, je mise gros.
Oui, oui.
Ça n'a pas été le cas. Et puis, Nicodème m'a appelé le dimanche soir en me disant, tu viens me chercher, je suis sortie.
C'est un rapide en plus. Hein.
Puis il est malin parce que il repère la police de très très loin. Alors heureusement, la police est allée le récupérer, l'a mis en garde à vue pour la nuit dimanche à lundi. Mais le lundi, il était dehors.
Oui.
Moi, j'ai porté plainte le dimanche. Hein, j'ai porté plainte pour menace de mort, dégradation bien sûr de mon appartement. Son frère a porté plainte aussi. Et malgré les plaintes, rien ne bouge. Rien ne bouge. Et là, je ne sais plus quoi faire.
Oui, oui. Je comprends que vous ne sachiez plus quoi faire. C'est terrible.
Ah, mais c'est terrible. Et puis, il faut absolument... le but de mon appel, c'est... si des gens m'entendent et peuvent m'aider, c'est avec grand plaisir. Parce que là, franchement, je suis au bout des idées diverses et variées que j'ai pu mettre en œuvre pendant 18 ans pour lui. Et puis surtout, peut-être aussi aider les parents, les autres, qui sont, parce qu'on est énormément de familles adoptives qui vivons ce problème-là.
Ouais, ouais.
Maintenant, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale ne se traduisent pas toutes par cette violence chez Nicodème.
Non.
Que j'ai chez Nicodème, lui, c'est un cas typique, parce qu'à côté de ça, il y a eu des émissions... que j'avais vu à la télé, justement, où on parlait d'enfants dans le même cas et de jeunes adultes qui ont des difficultés, certes, mais de toute façon, ils ont besoin d'une présence permanente. Il leur faut un deuxième cerveau à côté d'eux. Moi, actuellement, je sers de deuxième cerveau, sauf que le premier cerveau ne veut pas intégrer. Donc,
oui, sauf que le deuxième cerveau, il va finir par fatiguer, et puis vous en avez 4 dont il faut vous occuper.
Je n'en peux plus.
Moi, je pense que... vous savez, le problème de ce garçon aujourd'hui qui est majeur, c'est qu'il faut taper un peu fort. Et pour ça, il n'y a que la justice qui puisse lui mettre un cadre, vous voyez ?
Voilà.
Et un cadre, avec tout ce que vous m'avez raconté, le seul cadre qui va lui arriver à un moment ou un autre, parce que de toute façon, il y va tout droit, hein, il va finir en prison.
C'est ce que me dit ma petite sœur, de toute façon, puis c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver.
De toute façon, il va finir en prison si, bien évidemment, il ne lui arrive pas une bricole beaucoup plus sérieuse avec tous les copains qui s'est fait dans les cités environnantes. Parce que le souci, est-ce que Nicodème souffre? Est-ce qu'il a un trouble? Est-ce qu'il perçoit bien la responsabilité, ça, est-ce que...
Non, il ne peut pas, et ça ne le dédouane pas. Quand il est revenu le lendemain matin, le dimanche matin, moi j'avais passé une nuit blanche, et il était tout penaud devant ma fenêtre de chambre en me disant « Maman, je te demande pardon pour ce qui s'est passé hier soir ». Et je comprends. Et je comprends. Alors, il a ramassé des bouts de verre, il essayait. De toute façon, il n'a aucune estime de lui. Il considère qu'il ne vaut rien. Mais ça, c'est depuis toujours.
Oui, mais
alors
de toute façon,
il
doit...
été dans un foyer aimant, dans un foyer qui l'a entouré.
Mais vous savez, je pense que ce garçon, de toute façon, et comme tous les jeunes, il a du bon, du très bon en lui. Et c'est ça qui remonte à ce moment-là. On va marquer une pause parce que l'info arrive, ma chère Julie. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
Merci,
Olivier. À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Minuit passé de 6 minutes, de 7 minutes même, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez encore, vous le savez, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous joindre, nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes pour l'instant avec Julie qui nous... explique combien Nicodème, son fils adoptif, souffrant de syndrome de l'alcoolisation fœtale, hein, qui est donc né avec d'une maman qui était alcoolique et donc qui a été adoptée par Julie, combien cette maman souffre de voir cet enfant qui est depuis le 12 mars 2004 est majeur et donc fait beaucoup de bêtises. Et on a entendu, Julie, combien vous étiez éreinté par cette situation.
Oui, éreinté. Et puis surtout, ben, je cherche des solutions. Est-ce que je dois prendre un avocat ? Est-ce que... Et demander, parce qu'une demande d'hospitalisation sous contrainte, je ne sais même pas à qui je dois l'envoyer. J'ai beau chercher sur Internet, je vois tous les imprimés à remplir, les démarches à faire et tout ça. Je suis prête à les faire. Je suis une guerrière, je ne lâcherai pas mon enfant. Mais par contre, Je dans l'ordre, je sais plus ce que je dois faire là, où je dois taper, chez qui je dois demander de l'aide. C'est pour ça que je passe par vous, parce que je sais que effectivement il peut y avoir des gens qui vous écoutent et qui m'écoutent et qui peuvent peut-être trouver des solutions ou me proposer des solutions.
Ben comme je vous l'ai dit, je persiste à croire que l'éduc, même s'il ne l'a pas rencontré, hein, même si vous avez joué de malchance, elle a obligatoirement un suivi, hein, de votre fils. Et je pense que vous devriez vous rapprocher d'elle pour exposer vraiment votre cas à vous, de maman qui n'a plus aucune possibilité de calmer cet enfant, de le faire rentrer dans le droit chemin. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, Julie, il n'y a que un cadre de justice qui puisse au moins le freiner dans toutes ces bêtises. Voilà.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il est mis en garde à vue, la police contacte, je ne sais pas si c'est le procureur ou un juge ou je ne sais quoi, et comme ils prennent les affaires indépendamment les unes des autres, on dirait qu'ils n'ont pas l'historique du vécu de Nicodème. Et au mois d'octobre, j'ai assisté à une audience au cours de laquelle il y a eu 10 affaires qui lui étaient reprochées, dont il a été question. Et quand je suis ressortie du tribunal, j'ai entendu, son père l'a entendu, et la personne de l'ASE qui était avec nous l'a entendu aussi. Il était condamné à 6 mois de prison. Malheureusement, ça a disparu dans la nature. J'en ai plus jamais entendu parler.
Ouais,
j'ai dû payer les dommages.
Ils sont là, hein, les 6 mois. Hein. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas disparu.
Eh bien oui, mais comment se fait-il que chaque fois qu'ils le rattrapent et qu'ils le remettent en garde à vue, jamais, jamais, jamais il est déféré ou quoi que ce soit.
Ouais.
Ce serait une première sécurité de le déférer, bien que je craigne le système en prison et tout ça.
Malheureusement,
c'est pas l'idéal. Mais au moins, il serait en relative sécurité, si on peut dire. Et surtout, peut-être, pris en charge au niveau psychiatrique, parce que c'est ça, en fait.
Oui, mais complètement, c'est ça, et de toute façon, on se l'est dit tout à l'heure, si vous ne mettez pas un frein, si on ne lui met pas un frein à ce gamin, il va très mal finir. Très mal
et ben
finir.
Voilà, et c'est pour ça. Et est-ce que c'est moi qui dois le mettre, le frein, et comment je procède ? En passant par la PJJ, peut-être.
PJJ, obligatoirement, vous allez être reçu à la PJJ, c'est très sérieux.
Ah ben j'ai été reçu plusieurs fois.
Mon meilleur ami, il travaille, et il n'y a que des gens, pour faire ce boulot, je vais vous dire,
il faut
être vraiment habité, avoir la vocation. Donc vous avez, obligatoirement, vous serez reçu, et vous serez entendu, écouté. Alors après, je vous dis, ils ne font pas des miracles hein, non plus. Hein.
Non, mais c'est pas ce que j'attends.
Mais il y a quand même eu un suivi, même s'il a été à distance de votre enfant, parce qu'il a fait toutes ces bêtises, et donc ça leur est revenu à eux, puisque c'est à eux de gérer cela. Et d'ailleurs, ils ont dû, à un moment ou un autre, empêcher qu'ils se retrouvent en prison. Ils ont dû agir à un moment sans qu'ils le sachent.
Ah, ça, je ne sais pas.
C'est pour ça, rapprochez-vous d'eux. Rapprochez-vous
d'eux. D'accord.
Hein,
d'accord.
C'est vraiment, vraiment le...
C'est ce que je vais faire. C'est vrai que là, je les avais oubliés, moi, dans le
oui,
dos.
Mais c'est souvent par là, puisque quand ils ont commis des infractions, que ce soit n'importe quelle infraction, stup, cambriolage, je ne vous dis pas déverter les pas mûrs, parce qu'il y en a à 16 ans ou 15 ans qui font des trucs, parfois, ça vous fait froid dans le dos,
hein.
Oui, qui nous dépasse.
Ah ben oui.
Mais c'est là, en fait, qu'il a un suivi, c'est là qu'il a un dossier, et toutes ces infractions, de toute façon, il est en compte hein, avec la société, là, lui. Hein. Il a un dossier, donc je pense que c'est par là qu'il faut que vous passiez, et au moins, je pense qu'on va vous diriger. Sur les bonnes personnes.
D'accord.
N'hésitez pas à nous rappeler, hein, Julie, et à nous donner des nouvelles.
C'est très gentil.
D'accord.
Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie.
Merci pour votre émission,
et
parce
je vous
que
en prie.
C'est vraiment très humain et très chouette.
Ben,
merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Et bonne fin de nuit.
Merci, vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir.